Saison 2. L'automne. Chapitre 12. Le sourire de Mona. Depuis la cérémonie d'ouverture du tournoi de l'étoile, la pluie n'avait quasiment pas cessé de tomber. L'automne se résumait à une succession de semaines sous le même temps maussade. Les averses, presque sans répit, frappaient aux fenêtres du château, se déversaient en vagues sur la pyramide, inondaient le verger et transformaient les chemins du jardin en torrents de boue. Zizo, bien au chaud dans le château, ne pouvait s'empêcher de penser à ses amis du tipi, pour qui la vie était tellement plus compliquée dès qu'il pleuvait, gelait ou neigeait. Parfois, les marches des escaliers de fer devenaient plus glissantes que des pierres mouillées. Les nuits les plus froides, il leur arrivait de dormir tous au même étage, au premier, serrés les uns contre les autres comme une portée de chatons. Depuis 4 jours, sous une bruine tenace, la délégation de Solario était partie, composée de 7 enfants. Cléa, Clark, Romagna, Solveig, Noélie et Braza. Ils avaient emporté 2 tentes, de quoi manger pendant plusieurs jours, et une série d'instruments dont Zizo ignorait tout. La délégation avait pour mission de s'enfoncer jusqu'où il le faudrait dans la forêt, pour recueillir de l'eau, de la terre, du sang, de l'herbe, de tout ramasser avec des gants ou des pinces, et de placer les échantillons dans des petits tubes de verre pour qu'ensuite les enfants savants du château puissent les examiner. Liu prenait cette expédition très au sérieux et avait rappelé à Solario qu'il était responsable de la première mission d'exploration du Nouveau Monde, comme les premiers hommes qui avaient découvert de nouveaux continents. Ça semblait un peu exagéré à Zizo. Même eux, les enfants du tipi, s'aventuraient depuis toujours loin dans la forêt sans faire autant de cérémonies. De plus, la délégation ne craignait pas le Lupo Nero, puisqu'il n'avait jamais entendu parler de lui. Quand Zizo l'avait évoqué, dans les couloirs, à Osman, à Lix ou Sabi, personne n'y avait prêté attention. Il faut dire que Zizo, malgré tout le temps passé dans la forêt, n'avait jamais croisé le monstre et doutait même fortement qu'il puisse exister. Depuis 4 jours, le château n'avait donc aucune nouvelle de l'expédition de Solario. Mais Lunella, sa sœur jumelle, affirmait que tout allait bien. Si un malheur survenait, elle le saurait. Elle le ressentirait. C'était déjà arrivé, quand Solario avait failli s'étouffer avec une noisette qu'il avait essayé de casser entre ses dents, ou quand Lunella s'était levée la nuit, lors d'une crise de somnambulisme, et était tombée dans l'escalier de la galerie d'Apollon. Au château, les enfants sortaient peu dans le jardin et passaient la plupart du temps libre à lire, jouer aux cartes ou aux échecs. L'usage des écrans n'était autorisé par Marie-Lune que quand ils étaient en classe. Le 13e commandement. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi, imaginant mal qu'un écran puisse servir à autre chose qu'à faire cours, et en tout cas sûrement pas à s'amuser. Zizo continuait de bénéficier du privilège d'être le seul enfant, avec Ogénor, à pouvoir naviguer entre les 3 pavillons et à être autorisé à suivre l'ensemble des cours. « C'est pour rattraper ton retard, petit barbare !» se moquait Sabi. Zizo choisissait ceux qu'il aimait, en ignorant une grande partie des cours du pavillon des savants, à l'exception de la géographie, où il s'installait à côté d'Osman pour détailler pendant des heures les cartes commentées par Marie-Lune. Des villes, des pays, des îles. Le nom des rues et des monuments de Paris le fascinait. Il s'obligeait à visualiser l'ensemble du plan de la ville dans sa tête. Il commençait par Paris, cette ville qu'il connaissait avec ses pieds. Et un jour, il espérait être capable de le faire pour le monde entier. Il ferait entrer dans son cerveau chaque détail de cette terre dont les savants prétendaient qu'elle était ronde et recouverte d'étendues d'eau immenses qu'on appelait mer ou océan, mais que pourtant, aucun enfant n'avait jamais vu. Était-ce une légende? Et si la géographie mentait? À l'exception de la géographie, les cours que Zizo préférait étaient ceux du pavillon des soldats. À vrai dire, il serait volontiers resté uniquement dans ce pavillon où l'on passait moins de temps à rester assis, à écouter Marie-Lune ou Jeanne d'Arc, qu'à courir, sauter, ramper, se cacher, se battre, bref, bouger. Et surtout, il retrouvait Alix dans la classe des soldats. Parmi les enseignements du pavillon des soldats, il détestait les cours de discipline, de stratégie, de contrôle de soi, des trucs interminables sans intérêt comme le yoga, mais adorait tous les cours de combat, lutte, judo et surtout Bozendo. Depuis son arrestation en haut des escaliers blancs de Montmartre, Zizo s'était juré d'apprendre à mieux se battre avec son beau, de parvenir à le manier comme personne ne l'avait jamais fait, plus rapide, plus vif, plus précis. Il s'entraînait des heures dans sa prison du donjon, à frapper des cibles précises qu'il avait dessinées sur les pierres. En cours, il soignait ses déplacements, son intuition, son anticipation. Il combattait le plus souvent avec Alix ou parfois avec d'autres élèves, la grande Diana ou la calme et sage Florentine, échangeant en riant des coups de beau recouverts de mousse. Il évitait pourtant de se retrouver en tête à tête avec Novak, qui continuait de le fusiller du regard en clignant sa paupière tuméfiée, ou avec son grand copain Helios, le même que Novak en juste un peu moins fort et un peu plus frimeur, coiffé de sa casquette et de ses lunettes de soleil dès qu'il sortait dans le verger des Tuileries. Les deux enfants soldats ne rataient aucune occasion de faire comprendre à Zizo qu'il était un étranger n'ayant rien à faire dans le château, et encore moins sur les tatamis d'une salle de Bozendo. Dès que la possibilité se présentait, Novak ou Helios claquaient au nez de Zizo l'une des lourdes portes de bois, lui volaient sa serviette lorsqu'il prenait sa douche, ou simplement le suivaient des yeux en le montrant du doigt et en ricanant. Jean d'Arc, par contre, ne se moquait jamais de lui, mais ne lui adressait jamais non plus aucun compliment. Zizo avait pourtant conscience qu'il progressait, et pas seulement avec un bâton à la main. Il n'était pas forcément le plus fort lors des épreuves de puissance, comme soulever des pierres ou lancer des troncs, mais il était incontestablement le plus agile dès qu'il s'agissait d'escalader ou de se faufiler. Ce n'était pas bien difficile, pensait Zizo. Les soldats ne sortaient presque jamais du château. Ils n'apprenaient que la théorie. Ses compagnons du tipi lui semblaient bien plus aguerris et plus résistants. Zizo, en se comparant aux autres élèves, nourrissait petit à petit un rêve secret. Il observait les enfants soldats redoubler de courage à l'entraînement en classe dans un seul espoir, faire partie des trois candidats sélectionnés pour le tournoi de l'étoile, comme Alix l'année passée. S'il n'en avait parlé à personne, pas même à Alix, il espérait être choisi. Il le méritait. En vitesse, adresse, ruse ou courage, il avait toutes ses chances. Autant qu'un autre. Il travaillait dur pour cela. Il y pensait pendant des heures, seul dans sa prison du donjon, oscillant sans cesse entre un fol espoir et la conscience que jamais Jean d'Arc ne désignerait un étranger pour représenter le pavillon des soldats, un étranger qui d'ailleurs suivait des cours dans les deux autres pavillons, parfois même au pavillon des singes. De tous les cours, ceux des singes étaient les moins drôles, et Zizo avait du mal à comprendre l'envie obsessionnelle d'Alix de rejoindre un jour le pavillon des artistes. Alix le regardait toujours avec jalousie quand, entraînant les pieds, il quittait les salles d'entraînement des soldats pour se rendre dans la galerie des grands peintres, ou des arts décoratifs, ou des poussières, aurait dit Sabi, pour y suivre un enseignement sur les peintres impressionnistes, l'art gothique au Moyen-Âge, ou la construction des temples doriques sous l'Antiquité. Zizo adorait Alix, mais son goût pour la peinture, la poésie et l'art en général le stupéfiait. Comment pouvait-on préférer passer son après-midi devant ses vieux tableaux à un bon entraînement de judo? Heureusement, chez les singes, il retrouvait Sabi. Ce matin-là, Isalis avait réparti la classe en petits groupes, 4 au dessin, 4 à la peinture, 4 à la sculpture. La déléguée du pavillon suivait ainsi avec précision les recommandations du plan de progression énoncé par Marie-Lune derrière son écran. Zizo s'était retrouvé dans le groupe des sculpteurs, avec Sabi et Steve, sa meilleure complice chez les singes. Il disposait d'un bloc de terre boueuse et devait reproduire la sculpture posée devant eux dans une sorte de bateau cassé en deux.
« La victoire de Samothrace !»
précisa Isalis après qu'un film de Marie-Lune eut expliqué l'importance historique de cette statue lors d'un long exposé dont Zizo n'avait rien retenu. La déléguée des singes portait un tablier violet et des gants assortis. Sabi leva le doigt.
« Zaza !»
Isalis détestait qu'on l'appelle Zaza. Elle écouta tout de même son élève la plus turbulente.
« Zaza, on est obligé de fabriquer la même chose que ce vieux truc tout déglingué ou on peut l'améliorer ?»
La statue était effectivement étrange et semblait avoir été brisée pendant son transport jusqu'au guéridon, devant eux. Elle n'avait plus de tête, aucun bras, et une seule des deux ailes qui poussaient dans son dos était intacte.
« Mademoiselle, sachez que ce vieux truc tout déglingué, comme vous dites... »
Isalis, pendant les cours, vous voyez ses élèves, ce que Zizo trouvait parfaitement ridicule, vu qu'elle avait exactement le même âge qu'eux.
« Est une statue du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui servait sans doute de figure de proue au navire Argos, découvert en 1863 sur l'île de Samothrace, qu'elle est célèbre dans le monde et que... « Ok, ok, » coupa Sabi. « J'ai les mêmes oreilles que toi, Zaza. Moi aussi, j'ai entendu le blabla de Mama Luna. » Je me disais juste qu'on pourrait lui rajouter une tête et deux bras. Ce serait plus sympa et...
Zizo se retenait pour ne pas pouffer. Isalis semblait excédé. Son crâne avait l'air de tellement bouillir que son chignon menaçait d'exploser.
Ou on ne peut pas en trouver une plus neuve?
Insista Sabi.
Une mieux conservée, je veux dire. Si tu veux, avec Estive, on file au pavillon des soldats. Je connais quelques petites statues d'Achille sans slip. « Je peux t'en rapporter une si tu... »« Levez-vous !»
cria soudain Isalis. Zizo crut que, sous le coup de la fureur, les pinceaux qui retenaient le chignon de la déléguée allaient se mettre à tournoyer avec la même vitesse que lorsqu'il maniait son bow.
« Avancez !»
continua Isalis sur un ton encore plus autoritaire. Elle entraîna Sabi vers le groupe des singes qui peignaient, quatre filles, dont Olympe et Minerva, les deux chouchoutes de la classe.
« Puisque la sculpture ne vous passionne pas, vous allez vous rendre utile autrement. Vous vous considérez sans doute plus neuve et mieux conservée que ce vieux tableau, n'est-ce pas ?»
Isalis désignait une petite peinture assez sombre posée sur un chevalet que les apprentis peintres tentaient de reproduire. Zizo reconnut le portrait de la Joconde, celui que Sabi ne manquait jamais de saluer quand elle entrait, la fille au sourire fourbe.
« Vous allez remplacer Mona Lisa. Asseyez-vous sur cette chaise. » Tenez-vous bien droite, de trois quarts, croisez les mains comme elle, et souriez.
Sabine n'avait pas d'autre choix que d'obéir à la déléguée, mais Isalis en rajouta.
« Cela vous convient, mademoiselle? Cette œuvre-là possède une tête et deux bras. Je vous interdis de vous lever, de bouger ne serait-ce qu'un doigt, et même d'ouvrir la bouche. »
Sabine ne répliqua pas. « Digne. » Plus insolente encore dans son acceptation silencieuse de l'humiliation. Isalis jeta un coup d'œil aux toiles d'Olympe et de Minerva, qui baissèrent les yeux timidement, les félicita et s'éloigna vers les autres galeries du pavillon des singes. Elle revint près d'une heure plus tard. Zizo s'était révélé incapable de faire tenir l'aile de sa victoire de Samothrace sur son dos d'argile. Sa statue était encore plus estropiée que l'originale. Isalis lui jeta un regard consterné. Au moins, Zizo savait qu'il ne serait pas choisi pour être l'un des trois représentants du pavillon des singes au tournoi de l'étoile. Puis, elle se dirigea vers Sabi, qui, toujours assise sur sa chaise, n'avait pas bougé d'un cil. La déléguée afficha un petit sourire satisfait et se pencha pour admirer les tableaux peints par ses deux petites protégées. Olympe et Minerva semblaient terrifiées. Elles jouaient nerveusement du bout des doigts avec les rares mèches de cheveux qui dépassaient de leur strict chignon. Le sourire de Sabi n'avait jamais été aussi énigmatique.
D'un coup, Isalis devint toute rouge, comme si les pinceaux retenant ses cheveux, trempés dans une cuve de jus de fraise, avaient dégouliné.
« Qui vous a dit de peindre ça ?»
cria la déléguée.
« Vous ?»
balbutia Olympe, visiblement épouvantée par un dilemme impossible à trancher.
« Nous avons simplement recopié le modèle ?»« Je te jure, Zaza !»
affirma Sabi d'une petite voix malicieuse.
« Je n'ai pas bougé, et j'ai gardé la bouche fermée, comme tu m'as dit. »
Effectivement, sur l'étoile réalisée par les élèves, la bouche de Sabi, comme celle de la Joconde, était fermée, serrée même. Sauf qu'un détail dépassait, un détail que Sabi avait dû exposer aux apprentis peintres pendant une heure et que, telles des bêtasses disciplinées, elles avaient recopié. Sur toutes leurs toiles plutôt réussies, la Joconde leur tirait la langue. Isalis entra dans une rage folle.
Vous ne respectez donc rien ! Cette toile est peut-être le témoignage le plus précieux du génie de la civilisation qui nous a précédés. Sabine, venez avec moi. Vous êtes exclue du cours.
La déléguée l'attira par la main pour la faire sortir de la galerie. Dans son dos, Sabine continuait de tirer la langue à Olympe et Minerva qui battaient des paupières plus affolées que des papillons avant l'orage. Elles quittèrent la galerie des peintres italiens pour entrer dans celle des grands tableaux. Isalis claqua la porte derrière elle, laissant enfin les 30 autres élèves de la classe se précipiter vers Olympe et Minerva pour leur arracher les tableaux des mains et découvrir enfin ces portraits dont le modèle les faisait se tordre de rire depuis une heure. Isalis désigna un banc de bois au milieu de la galerie des grands tableaux.
« Restez là jusqu'à la fin du cours !»
Sabine ne répondit pas, ne bougea pas. Ses yeux fixaient le mur d'en face, sans parvenir à croire ce qu'il voyait, ou plutôt, ce qu'il ne voyait pas. Elle reconnaissait les tableaux sur les côtés, le sacre de Napoléon et le radeau de la Méduse, mais au centre, le tableau des Sabines avait disparu. Il avait été remplacé par une ridicule peinture, 10 fois plus petite, représentant une vieille en bigoudi en train de coudre.
« Où est passé le tableau ?»
demanda Sabine.
« Quel tableau ?»«
Tu sais bien, les Sabines. La toile avec les soldats, les femmes et les bébés. »«
Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. »«
Tu te fous de moi ?»
explosa Sabine. Isalis détourna les yeux, les arrêta sur le minuscule portrait de la couturière qui remplaçait les Sabines, troublée au point d'en oublier de la vouvoyer.
« Tu es folle. Il n'y a jamais eu d'autre tableau. »